Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
La RDC et l'Ouganda décident de s'unir pour traquer les groupes armés en Ituri et au Nord Kivu. Un accord général a été signé dans ce sens hier à Bunia. C'est à l'issue d'une réunion de deux jours entre les autorités des deux pays, réunion tenue au chef-lieu de l'Ituri. Certains quartiers de Kisangani, toujours dans le noir, alors que dans d'autres, l'électricité est rétablie depuis mardi, après des longues semaines sans courant. Côté SNEL, on explique cette situation par des difficultés d'ordre technique et logistique. Et puis, Journée internationale des droits de l'homme, c'est aujourd'hui 10 décembre. À cette occasion, le ministre congolais des droits humains rassure toutes les victimes que le gouvernement fait tout pour que le respect des droits de l'homme soit une réalité en RDC. Fabrice Puella l'a déclaré mercredi lors de son passage à Goma. Il est notre invité ce matin. Madame, Messieurs, bonjour. Le ministre congolais de la Défense et son homologue ougandais ont signé hier à Bunia un accord général de défense et de sécurité pour la conduite des opérations contre les groupes armés en Ituri et au Nord Kivu. Dans leur communiqué conjoint, les deux délégations réaffirment que la mutualisation des forces vise à traquer tous les groupes armés et les forces négatives, dont les EDF. Elles se sont félicitées du progrès réalisé jusqu'à présent dans les opérations conjointes FARDC-UPDF dans les territoires d'Irumu en Ituri et de Beni au Nord Kivu, le compte-rendu de Martial Kizabiamungu.
Pendant deux jours, les experts congolais et ougandais ont discuté sur des questions de sécurité et de défense d'intérêts mutuels pour les deux pays, notamment à ce qui concerne les opérations conjointes pour l'éradication des rebelles des ADF et d'autres groupes armés locaux actifs le long de la frontière commune dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. À la fin des travaux, les ministres de la Défense de la RDC et de l'Ouganda ont signé un accord général de défense et de sécurité. À quoi consiste cet accord? Les ministres de la Défense et ancien combattant de la RDC, Gilbert Kabanda, explique.
C'est un accord général de défense, mais encadre la mutualisation de nos forces armées qui est en cours. S'il y a des groupes armés locaux qui sont à cheval entre l'Ouganda et le Congo, cet accord va s'éteindre.
Pour les ministres ougandais de la Défense, ce qui est important dans cet accord, c'est l'union des efforts entre les FARDC et UPDF pour atteindre les objectifs de ces opérations. Honorable Vincent Banalangaki.
Ce qui est très important pour nous, comment UPDF et les FARDC vont travailler ensemble en vue d'atteindre les objectifs.
Enfin, les deux parties rassurent les populations de la RDC et de l'Ouganda que ces opérations continueront à être menées dans le respect strict des droits de l'homme tout en respectant la souveraineté de ces deux pays. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement congolais a fait savoir que 31 Congolais pris en otage récemment ont été libérés et 30 terroristes ADF capturés. C'est le bilan des opérations militaires conjointes du 30 novembre dernier entre les FARDC et l'armée ougandaise à la limite entre la RDC et l'Ouganda. Patrick Muyaya, qui s'est référé ainsi à un communiqué de presse signé par les autorités militaires congolaises et ougandaises, l'a fait savoir hier à Kinshasa dans une conférence de presse animée avec sa collègue des arts et cultures Catherine Katou. Et en réaction à l'accord signé hier à Bunia, le député national Crispin Bindoulé estime que les groupes armés locaux de l'Ituri et du Nord Kivu doivent profiter de ce moment pour déposer les armes avant que la mutualisation des forces congolaises et ougandaises n'atteigne la vitesse de croisière. Cet élu a fait cette déclaration hier à Bunia après la signature du dit accord de coopération. Vous le savez, cet accord s'inscrit dans le cadre des opérations conjointes entre l'armée des deux pays pour traquer les rebelles ADF. Pour cet élu du Nord Kivu, il n'y aura pas de négociation avec ceux qui ont pris les armes contre la République. Le député national Crispin Bindoulé, au micro de Martial Kiza.
Moi, en tant que député, je soutiens cette mutualisation. Pourquoi? Parce que je posais la question aux électeurs et j'ai été à Boutem, à Beni. La population soutient la mutualisation. Quand nous sommes arrivés ici à Bunia, à Ituri, nous nous sommes rencontrés avec la société civile, avec les communautés, avec les structures de la jeunesse, et je me suis rendu compte que tous réclamaient que cette mutualisation puisse débuter avec les actions ici à Ituri, aux groupes armés locaux, à la Codeco, Tchinyakilima, Mai Mai, Zaïre, c'est le moment de déposer les armes parce que cette mutualisation ne va pas négocier avec quelqu'un. Dès qu'elle lasse les opérations, dans l'Itour, il n'y aura plus de négociation. C'est le moment, si vous voulez quitter la brousse, c'est le moment de quitter. S'il continue à résister, il va rencontrer cette mutualisation.
Entre-temps, au Nord Kivu, la situation sécuritaire s'est dégradée de plus en plus dans la partie sud du territoire de Lubero. L'activisme des groupes armés dans les chefferies de Batangi et Bamate est à la base de cette situation, rapporte la société civile locale. Cet activisme des Maïmaï s'illustre d'une part par des embuscades d'hommes armés sur la route Butembo-Goma, d'autre part par des attaques contre les positions militaires. Le point avec Grace Amzati.
L'insécurité dans cette zone concerne une bonne partie de la route nationale numéro 2 reliant les villes de Butembo et Goma. Des responsables de la société civile parlent désormais d'une route coupe-gorge entre les localités de Kanyambi, Lubango, Ndoluma et Mambasa, mais aussi entre Muola et la cité de Kanyabayonga. Mercredi, un minibus de transport en commun est tombé dans une embuscade d'hommes armés sur ce tronçon. Le conducteur a réussi à s'échapper malgré les tirs nourris des coupeurs des routes. Un peu plus tôt le même jour, c'est un convoi des humanitaires escorté par les casques bleus de la MONUSCO qui était la cible de armés. Après un échange de tirs, trois personnes à bord du véhicule du HCR ont été blessées, dont deux par balle. Quelques jours avant, un militaire était tué et le conducteur de la moto qui les transportait blessé dans une autre embuscade tendue sur les mêmes tronçons, rapporte la société civile. Mwamistu Kamwanaweka et Mwamimukosa Senge, respectivement autorités coutumières de Batangi et Bamate, se disent préoccupés par cette situation. Contacté, le général Grégoire Manzika, la commandant des opérations Sokola 1 Axe Sud, affirme que l'armée travaille sur la question. Il promet que des dispositions seront prises pour améliorer la sécurité sur cette route. Butembo, Grâce à Mzati, Radio Kapi.
Ici à Kinshasa, l'inspection générale de la police nationale a présenté hier à la presse quatre malfaiteurs présumés, dont trois faux policiers et un faux député national. Ces personnes ont été transférées à la prison de Ndolo. Le colonel Piero Rombo Mwanaputu, porte-parole de la police qui a procédé à cette présentation, demande à la population de continuer à collaborer avec les forces de l'ordre afin de mettre hors d'état de nuire tous les malfaiteurs. Le colonel Piero Mwanaputu au micro de Paul Matendo Mayamba.
Nous avons, à la longueur des journées, toujours appris qu'il y avait des personnes qui étaient habillées en tenue de police, qui étaient en train de patrouiller sur les chaussées ou sur les rues de la ville, en train d'interpeller, d'insécuriser nos concitoyens. Et lorsqu'on leur disait non, nous n'avons pas pour vision de vous insécuriser, mais plutôt de vous protéger. Mais voilà, que des êtres si mal intentionnés qui torpillent l'action du chef de l'État. Ils insécurisent à longueur des journées des populations. Ça veut dire que la population doit nous aider à dénoncer de pareilles forfaitures qui désarticulent et déshonorent ces corps de métier.
Direction la province de la Tchopo. Le rétablissement de l'électricité dans la ville de Kisangani n'apporte pas satisfaction à toute la population bohémaise. Certains habitants de la ville affirment qu'ils croupissent toujours dans le noir alors que dans plusieurs coins des ampoules s'allument de nouveau depuis mardi dernier dans la soirée. Du côté de la SNEL, on déclare que ce désagrément est lié aux difficultés d'ordre technique et logistique. Jacques Moukonkole nous fait le point.
Plusieurs quartiers de la ville ne sont pas encore alimentés en électricité, bien que cette dernière soit rétablie dans plusieurs autres coins de la ville. Témoignage d'un habitant du quartier Motumbe.
Nous, des côtés de Motumbe, précisément, vers le grand séminaire, nous dépendons de cabines des grands séminaires. On n'a pas d'électricité jusqu'à présent.
Même son des cloches du côté du campus central de l'université de Kisangani. La nuit dernière, les étudiants sont descendus dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol.
Nous avons besoin du courant pour préparer ces examens, vu que les 13 ici, les examens vont commencer. Et comme il n'y avait pas de courant, c'est notre façon de revendiquer que le courant puisse arriver et nous étions descendus au cours de la route.
Des sources techniques de la SNEL justifient le déficit de la consommation électrique par la faible capacité des productions de la centrale. Des 8 MW produits, seuls 6 sont distribués aux consommateurs. Les deux autres tournants au réseau ne peuvent être distribués. Par ailleurs, le directeur provincial de la SNEL a fait savoir que le sabotage des installations de son entreprise par des inciviques est aussi à la base de cette situation. Alphonse Kitambala.
On a volé des câbles et certaines cabines ont été vandalisées.
Tout en recommandant la vigilance à la population, la SNEL sollicite également l'appui des services de sécurité pour démanteler le réseau des inciviques qui détruisent ces installations. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Et puis, comment prévenir les incendies liés à l'électricité? Ce sujet revient dans l'actualité après des cas d'incendies tragiques enregistrés les deux derniers mois dans la ville de Kinshasa. Le dernier cas en date a coûté la vie à 4 personnes à l'hôtel Jojoli à la 7e rue limitée. Les enquêtes sont encore en cours pour en déterminer les causes, mais pour Pichu et Eke Nsangani, préventionniste d'incendie au corps de sapeurs-pompiers de Kinshasa, 90% des cas pour lesquels les pompiers interviennent à Kinshasa sont liés à l'électricité. Il donne ici quelques conseils. Pichu et Eke intervenaient dans le magazine Okapi Service, animé par Jolie Daniel Kachama.
Il y a deux types de prévention. Il y a la prévention passive et la prévention active. La prévention passive, c'est la prévention au moment où on construit les bâtiments. On choisit les matériaux moins combustibles. On choisit la qualité des fils conducteurs ou des câbles qu'on installe. Parce que 90% des incendies dont nous intervenons ici à Kinshasa sont d'origine électrique. La prévention active consiste à l'acquisition des équipements anti-incendie. Au minimum, un extincteur dans les bâtiments, détecteur de fumée. Et deuxièmement, il faut, par exemple, éteindre les lampes. Lorsqu'on sera absent dans la maison, il faut débrancher certains appareils électroménagers. Lorsqu'on se cache à un certain moment, on ne va pas le contrôler. Quand on dort, il faut faire en sorte de débrancher tout ça. Lorsqu'on a les gaz, il faut souvent vérifier la robinetterie de votre appareil de gaz. Les cas de raccordement fraudulés qui ne sont pas contrôlés par la SNEL. Lorsqu'on se cache à un certain moment, on ne va pas le contrôler. Quand on dort, il faut faire en sorte de débrancher tout ça.
Une société civile autonome, indépendante et responsable face aux enjeux des gouvernances démocratiques, c'est le thème d'une table ronde de 2 jours ouverte hier à Kinshasa. Selon l'ONG Agir pour les élections transparentes et apaisées, AETA, l'objectif de cette rencontre est de préparer les organisations de la société civile afin de relever les défis de gouvernance non seulement des ressources naturelles de la RDC, mais aussi des enjeux électoraux. Paul Matendo, reportage.
Selon Agir pour les élections transparentes et apaisées à État, la RDC fait face à plusieurs défis. C'est ainsi que les organisations de la société civile doivent être indépendantes et autonomes afin de les relever et ainsi assurer le contrôle de l'exercice du pouvoir. Jérôme Bosso, secrétaire permanent de AETA.
Nous voulons toujours être intermédiaires entre l'État et les citoyens. Nous voulons aussi, dans cet exercice, et un courroie de transmission entre nous et les citoyens afin de s'approprier dans la gouvernance des ressources naturelles, dans la gouvernance des enjeux électoraux, parce que les défis sont là.
Pour sa part, Albert Fabrice Puella, ministre des Droits humains, qui a lancé ses travaux, lui appelle les ONG de la société civile à jouer réellement un rôle responsable dans la gouvernance de la RDC.
Nous demandons à la société civile d'être une société civile assez ouverte, assez responsable, assez prompte à écouter et à comprendre certains défis de gouvernance.
Parmi les ONG présentes à ces assises, il faut citer l'ODEP, Observatoire de la dette publique, Azado et la Nouvelle Société Civile du Congo.
Rendons-nous à Guémena, dans le sud d'Ubangi, pour parler de la fin de la grève des bouchers de la ville. Les différents marchés sont à nouveau bondés de viande, de bœufs et de porc, et cela à la satisfaction de la population. Les bouchers sont revenus sur leur décision après la médiation de quelques élus provinciaux, puisqu'ils avaient observé un arrêt d'activité pendant 3 jours, particulièrement pour manifester leur désapprobation des taxes jugées exorbitantes et de l'utilisation obligatoire de l'abattoir moderne, mais inachevé, se trouvant à 7 km de la ville. Paul Richard Malengela, reportage.
Depuis mercredi, l'engouement a repris au marché central de Guémena, particulièrement au pavillon des bouchers, car toutes sortes de viandes ont été disponibles et la plupart des ménagers venus se ravitailler en cette denrée étaient ravis. Ce, grâce à la médiation de certains députés provinciaux, afin que la population puisse bien passer les fêtes de fin d'année, comme l'a expliqué le président des bouchers, Jean-Roger Yabata. Nous avons levé la grève puisqu'un des non-députés est venu nous dire de reprendre nos activités dans l'ancien abattoir en attendant un nouvel accord avec le ministre. Mais pour le moment, nous paierons l'ancienne taxe de 1000 francs et nous travaillerons dans l'ancien abattoir de Mumbunga. Rappelons que depuis lundi dernier, toute viande d'élevage était quasiment invisible sur les marchés de Guémena. Les bouchers et vendeuses s'opposaient notamment à la taxe de 10 000 francs congolais et à l'abattage obligatoire au niveau de l'abattage moderne construit à 7 km de la ville par le Parsa. Car cet ouvrage manque d'eau courante, de chambres froides et de plusieurs matériaux d'exploitation, a indiqué Jean-Roger Yabata. Bandaka pour Chamalingé, la radio Okapi.
Actualité internationale. La ville camerounaise de Kousséri, située en face de la capitale du Tchad, est sous extrême tension depuis hier. Un affrontement entre deux communautés autour de la gestion d'un point d'eau en dehors de la ville a dégénéré et s'est transformé en conflit intercommunautaire. Hier, les deux communautés se sont affrontées, le marché a été brûlé et la ville coupée en deux. En Syrie, des vents violents accompagnés des pluies ont provoqué d'importants dégâts dans des camps des réfugiés dans le nord-ouest du pays. Des centaines de tentes ont été détruites ou inondées. Plus de 70 campements abritant des dizaines de milliers de réfugiés dans la province d'Idleb et au nord d'Alep, qui échappent encore au contrôle de Damas, ont été endommagés. Des fortes pluies accompagnées des vents violents se sont abattues pendant 24 heures sans interruption sur le nord de la Syrie. Sachez que le conflit syrien qui dure depuis 2011 a provoqué l'exode de 13 millions de personnes qui représentent 60% de la population. 6,5 millions de Syriens ont été accueillis par les pays voisins, notamment la Turquie, le Liban et la Jordanie.
L'invité.
Le 10 décembre, aujourd'hui, c'est la Journée internationale des droits de l'homme. À cette occasion, le ministre congolais des droits humains affirme que la situation en RDC s'améliore progressivement. Albert Fabrice Puella l'a déclaré mercredi lors de son passage à Goma. Le ministre rassure toutes les victimes des violations des droits de l'homme que le gouvernement fait tout pour que le respect des droits de l'homme soit une réalité en RDC. Fabrice Puella s'entretient avec Sifa Maguru.
Monsieur le ministre des droits humains, Fabrice Puella, bonjour.
Bonjour madame.
Quelle est la situation des droits de l'homme actuellement en RDC et quelles sont les actions qui sont menées par votre gouvernement?
Nous avons hérité d'une situation assez alarmante en ce qui concerne les droits de l'homme. Beaucoup d'efforts sont fournis et il y a une grande amélioration. Lorsque vous suivez les différents rapports, les monitoring des organismes, je parle par exemple des organisations crédibles comme les bureaux conjoints aux droits de l'homme, la situation est en train de s'améliorer. C'est vrai que dans une situation de guerre comme ici au Nord Kivu où nous nous retrouvons, Ituri, c'est pas très évident, mais des efforts sont fournis pour que la situation des droits de l'homme puisse s'améliorer. Nous venons d'être à New York où la République démocratique du Congo a été invitée et représentée par votre serviteur, le ministre des droits humains, où nous avons parlé de nos efforts pour faire adopter la loi portant abolition ou même répression de trafic des personnes. De tout ça, ce sont des efforts que nous fournissons. Dans les jours qui viennent, un établissement public va voir les jours le Fonds national des réparations des victimes des crimes sexuels et autres crimes graves. C'est un grand effort. Certains qui ont été victimes de graves violations des droits de l'homme dans le cadre des crimes de masse comme les Enyele à l'Équateur, à Yumbi, les membres de Bundu dia Congo, les Bakata Katanga dans les dossiers Kamuina Sapu et ici où nous nous retrouvons au Nord Kivu, au Sud Kivu avec les enterrés vivantes des Kasika, des Mwenga, Bakobola au niveau de l'Ituri là-bas. Donc tous ces problèmes-là, nous sommes en train de nous battre pour cela et cet établissement public aura cet avantage justement de rencontrer les attentes de ces victimes de crimes graves et surtout des survivants, combat que mènent les seuls prix Nobel de paix que nous avons et que nous saluons en passant pour son combat.
Quels sont les défis qui restent à relever par votre ministère?
Les grands défis que nous avons justement, entre autres, c'est la mise sur pied de cet établissement pour redonner goût à la vie et à appartenir à une nation, à toutes ces victimes de crimes graves, mais aussi former, renforcer les capacités des acteurs de sécurité, les policiers plus particulièrement, parce que voyez-vous, nous sortons d'un régime que vous connaissez, qui était très répressif. Aujourd'hui, nous pouvons être contents et nous sommes fiers lorsque nous en parlons même à la tribune des Nations Unies, qu'il y a des manifestations à grande échelle qui peuvent être organisées avec zéro mort, zéro blessé, zéro acte de vandalisme. C'est une grande avancée. Et notre défi, justement, c'est de continuer à former les policiers, surtout les exécutants, à intérioriser le fait que les civils n'aient pas son ennemi. Lorsqu'il manifeste, c'est aussi au profit de ses enfants, de son épouse, qui ne sont pas des militaires, qui ne sont pas des policiers. Donc, il faut amener, c'est parmi les grands défis que nous avons, avoir des moyens pour amener l'évangile des droits de l'homme partout.
Monsieur le ministre, il y a encore une préoccupation dans le cadre des droits de l'homme, c'est la protection des défenseurs des droits de l'homme, même si on a noté des débuts prometteurs en 2019 avec l'élargissement de l'espace civique et démocratique. Qu'en pensez-vous?
Merci beaucoup. Effectivement, c'est parmi les défis qui se présente à nous, c'est de faire voter par le Parlement la proposition de loi portant protection des défenseurs de droits de l'homme. Les défenseurs de droits de l'homme prennent énormément de risques. Plusieurs sont arrêtés, plusieurs sont bastonnés. Et ces défenseurs de droits de l'homme, ils se recrutent parmi les syndicalistes, ils se recrutent parmi les journalistes, ils se recrutent parmi les avocats. Plusieurs, lorsque vous défendez des droits de l'homme, on vous prend pour un opposant, on vous prend pour un renégat, on vous prend pour un criminel. Et pourtant, c'est vous qui défendez, pardon, les droits de l'homme. Nous-mêmes, avant d'être au gouvernement, plusieurs fois nous avons été bastonnés, plusieurs fois nous avons été arrêtés. Et pour nous, c'est un défi. Je souhaite une très bonne fête aux défenseurs des droits de l'homme et j'aimerais leur rassurer que nous faisons de leur combat le nôtre. Nous voulons nous battre pour que la loi devant servir de cadre juridique pour leur travail soit adoptée au niveau de l'Assemblée nationale.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre Fabrice Puella. Le ministre congolais des droits humains répondait aux questions de Sifa Maguru. C'est la fin de ce journal supervisé par Alain Rongmochinj. Mimi Kindou était à la mise en onde. Retrouvez-le sur notre site www.radiokapi.net. Merci.